Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord les titres de ce journal. C'est parti depuis ce matin avec la 12e conférence des gouverneurs qui se tient à Kolwezi dans le Lualaba. C'est le président de la République qui a personnellement donné le go de ce grand rendez-vous. Nous allons nous rendre sur place pour vivre au plus près cet événement. Ici à Kinshasa, l'étau se resserre autour de Constant Mutamba. Le procureur général près la Cour de cassation a sollicité hier l'autorisation des poursuites à charge du ministre de la Justice. Firmin Vondé attend la décision de l'Assemblée nationale pour arrêter ou non le ministre de la Justice. Et puis, inexistence des registres d'enregistrement des enfants dans la ville et le territoire de Beni. Un grand problème dans cette partie du Nord Kivu qui prive des milliers d'enfants de leur identité légale. Pour en parler, Sylvain Kakule Lumbulumbu, le chef du bureau de l'état civil à Beni, est notre invité. Encore une fois, bonjour. C'est parti depuis ce matin avec la 12e conférence des gouverneurs qui se tient à Kolwezi dans le Lualaba. C'est le président de la République qui a donné le go de ce grand rendez-vous. Les travaux portent sur la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces. Par rapport à ce thème, la société civile du Lualaba pense que les recommandations qui découleront de ces assises permettront l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales, notamment qui sont souvent confrontées à un accès difficile aux soins de santé de qualité. On écoute Shadrach Moukad, président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Il est joint au téléphone par Jean Gandou.
Connaissant les réalités de notre province, nous sommes la province la plus riche. Il y a vraiment un contraste par rapport aux conditions de vie de nos communautés qui sont dans des villages, nos communautés rurales. Vivent dans des conditions sanitaires très précaires. Je vais parler de maladies qui sévissent dans les coins les plus reculés de la province et nous espérons qu'avec cette conférence et les recommandations, tout comme le plan qui sera mis en place, le gouvernement provincial va étendre la mise en œuvre de cette politique qui pourra permettre que nos communautés vivant dans les milieux les plus reculés, c'est notamment les territoires, les chefferies, les groupements, les villages puissent bénéficier de la couverture de la santé universelle. Cette couverture pourra permettre l'amélioration des conditions de vie sanitaires de nos communautés en appuyant les structures sanitaires, les centres de santé, les hôpitaux de référence qui sont sous l'autorité des différentes zones de santé installées dans notre province.
Économie à présent. Au premier trimestre de l'année, les dépenses exécutées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire n'ont représenté que 1,58% selon le ministre des Finances. Ce résultat marque un progrès notable, fruit des réformes engagées en 2024 pour encadrer strictement les dépenses publiques, renforcer la transparence budgétaire et restaurer la discipline financière, indique la même source. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon une dépêche publiée sur les comptes UX du ministère des Finances, la RDC franchit une étape importante dans la gestion de ses finances publiques. Cette note rapporte qu'au premier trimestre de cette année, les dépenses exécutées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire se limitent à seulement 1,58%. D'après les données du ministère des Finances, ces taux historiquement bas reflètent l'impact concret de la réforme lancée en juin 2024 par le ministre Doudou Fomba Likoundé. Désormais, précise ce document, la procédure d'urgence est rigoureusement limitée aux seules opérations sécuritaires et au placement des chefs d'institution. Toutes les autres dépenses, notamment celles liées à la dette intérieure, au fonctionnement ou aux investissements publics, doivent impérativement suivre les circuits classiques de la chaîne des dépenses. Cette discipline accrue s'inscrit dans une volonté affirmée de restaurer la confiance dans la gestion des finances publiques et de consolider la stabilité macroéconomique du pays, conclut le ministère des Finances.
Direction au Palais du Peuple à présent, avec cette recommandation du président de l'Assemblée nationale, le gouvernement devrait prendre les dispositions nécessaires pour assurer une paye régulière des agents et fonctionnaires de l'État dans les zones occupées par les rebelles de l'AFC M23, a déclaré Vital Kamerhe dans sa recommandation. Cela en vue de préserver l'unité nationale et éviter le clivage Est-Ouest, a ajouté le président de la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe l'a dit hier lundi au cours de la plénière portant examen du rapport de la commission ayant examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifindangoy.
Je pense qu'en ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou d'autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez infliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et lui vous coupez leur salaire. Et si vous coupez, cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'agissement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans les régimes du gouvernement central. C'est très dangereux.
Je le disais à l'instant, le procureur général près la Cour de cassation a sollicité hier l'autorisation des poursuites à charge du ministre de la Justice. Vous le savez, Firmin Vondé a adressé un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale à ce sujet. Constant Mutamba pourra être arrêté si l'Assemblée nationale l'autorise après examen du réquisitoire. Rappelons que le ministre est accusé de détournement présumé de deniers publics, dont 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Mais procède-t-on pour mettre en accusation ou en cause un ministre membre du gouvernement devant la Cour de cassation? Nous recevons notre spécialiste maison des questions judiciaires pour évoquer le statut pénal du ministre de la Justice. Bonjour Jeff Ngoy.
Bonjour Levin Mwinga.
Dites-nous Jeff, quelle est la procédure devant la Cour de cassation pour mettre en accusation un ministre?
Eh bien, Levin, l'article 166, alinéa 2 de la Constitution stipule qu'un membre du gouvernement ne peut être poursuivi que sur autorisation de l'Assemblée nationale. La qualité qui est prise en compte ici, c'est celle du moment de la commission des faits reprochée au ministre. Comme il peut s'observer qu'une personne élue députée peut se voir nommée au gouvernement. Ce qui sera considéré, ce n'est pas son ancienne qualité de député ou sénateur, car une fois qu'elle accepte de siéger au gouvernement, elle quitte la chambre parlementaire et un de ses suppléants verra son mandat être validé pour l'y remplacer. Et comme on ne peut pas concevoir qu'il y ait deux ou trois personnes qui soient couvertes d'immunité parlementaire, ainsi l'ancien député, devenu ministre, se voit retirer l'immunité parlementaire et devient bénéficiaire des privilèges, des poursuites et des juridictions. C'est le cas de Constant Mutamba. C'est pourquoi le premier réquisitoire du procureur général consistait à obtenir l'autorisation d'instruction à sa charge.
Bien, Jeff, et après avoir été autorisé d'instruire à charge le ministre Constant Mutamba, qu'est-ce qui reste encore à faire dans cette affaire?
Il faut noter trois phases en matière de mise en accusation des ministres. La première phase, appelée instruction ou enquête préjuridictionnelle, c'est celle que le procureur général vient de boucler. À ce niveau, il ouvre ce que l'on appelle RI. Registre d'informations. Et le ministre est encore suspect à ce stade. Le procureur recherche à rassembler des informations à sa charge, le confronter aux faits à sa disposition. Lorsqu'il arrive à établir la culpabilité, il passe à la deuxième phase qui est celle consistante à solliciter l'autorisation des poursuites. C'est la mise en accusation. Il adresse, comme il vient de le faire, un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale et attend maintenant que celle-ci autorise cette mise en accusation. Déjà à ce stade, le procureur général peut ouvrir ce que l'on appelle RMP, registre du ministère public, qui lui permet d'émettre un mandat d'arrêt provisoire contre le ministre qui vient d'être inculpé. La dernière phase consiste à ouvrir le RP, rôle pénal. Par cette phase, le procureur général établit les faits pénaux et transforme l'inculpé en prévenu en envoyant son dossier en fixation devant la Cour de cassation. Celle-ci alors fixe la date du procès. Voilà les trois étapes qui mènent vers le procès.
Merci Jeff pour cet éclairage. On te retrouvera sûrement bientôt pour d'autres rebondissements de cette affaire. Nous en venons au bilan sécuritaire enregistré à la suite des affrontements hier lundi dans les villages du groupement Kisimba, territoire de Walikale, Bambo et Binza dans le Nord Kivu. Plusieurs maisons d'habitation incendiées à Moulema, une fillette d'environ 10 ans tuée à Nyamilima et des populations déplacées dans le village Mugogo. Si un calme précaire règne dans ces villages ce mardi, la situation sécuritaire et humanitaire y demeure tendue, disent nos sources locales. Le point avec Stanislas Duimi.
Dans le village de Nyamilima, territoire de Rutshuru, où ce sont les Wazalendo qui ont attaqué autour de 7h locale. Hier lundi, les rebelles du M23, les violents affrontements qui s'en sont suivis jusqu'autour de midi ont causé de nombreux dégâts matériels et humains. Une fillette d'environ 10 ans a été tuée, une dizaine de maisons d'habitation frappées par des éclats de bombes et quelques dizaines d'autres personnes interpellées par le rebelle AFC M23. C'était peu après le repli des Wazalendo, indique nos sources à Nyamilima. D'autres accrochages opposant toujours les Wazalendo aux rebelles M23 ont été signalés à Mugogo, dans la chefferie des Buito, territoire de Rutshuru. Ils se sont même étendus jusqu'à Moulema, dans le groupement voisin de Kisimba, territoire de Walikale, où plusieurs maisons appartenant à des civils ont été incendiées, disent nos sources. Si une accalmie s'observe ce mardi, nos sources précisent que la situation est tendue, en particulier dans cette partie ouest du territoire de Rutshuru. Là, du 18 mai dernier à ce jour, nos sources font état de plus de 600 maisons de civils incendiées, d'au moins 75 personnes tuées et de 42 autres grièvement blessées. C'est là au cours des affrontements qui ont affecté plus de 26 villages de groupements Bukombo, Tongo et Bambou.
Trois présumés braqueurs derrière les barreaux ici à Kinshasa. La police nationale congolaise les a arrêtés hier lundi car ayant opéré près de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur et Sécurité dans un communiqué. Il informe la population kinoise en particulier que cette prise est le fruit de l'intensification de l'opération Ndobo, notamment dans son volet consacré à la lutte contre les braquages. Ces criminels seront transférés dans un bref délai devant les instances judiciaires compétentes, renseigne le communiqué. Signalons que depuis quelques semaines, des individus armés s'attaquent de manière délibérée à des commerces, boutiques ou véhicules dans le but d'extorquer des fonds et des biens. À ce sujet, lors de la récente réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice de mettre sur pied des stratégies pour arrêter ces crimes qui tendent à s'accroître dans la ville province de Kinshasa. Et puis un colloque international regroupant des femmes se tient depuis hier lundi, toujours ici dans la capitale. Son thème, les femmes dans la société et dans l'église à Kinshasa 36 ans après Maloula. Savoir d'hier, pratique d'aujourd'hui et regard de demain. Objectif de ces assises de 6 jours, faire le point sur la postérité de la pensée et des pratiques pastorales du cardinal Joseph Albert Maloula. Il est organisé par le groupe de théologie africaine et afro-descendante de l'Université de Montréal au Canada, en collaboration notamment avec l'Université de Mosenod de Kinshasa. Le professeur Maker Manimba, père recteur de l'Université de Mosenod, indique en même temps que ce colloque se focalise sur les rôles et les fonctions des femmes dans la société. On l'écoute au micro de Grace Hamzati.
Ce thème est évocateur parce que les femmes sont souvent reléguées au second rang, alors qu'elles ont un grand rôle à jouer pour l'avenir de l'Église et de la société. Nous avons pensé relire la pensée du cardinal Maloula, essayer de voir toutes ses intuitions pastorales et à partir de là, voir dans quelle mesure cette pensée, ces intuitions pastorales peuvent aider les Congo aujourd'hui, que ce soit au niveau ecclésial ou au niveau social, à préparer l'avenir. l'avenir de ce pays. Parce qu'il ne faut pas oublier, Maloula n'a pas été qu'archevêque. Maloula a été un homme qui a défendu les valeurs africaines, les valeurs congolaises, parce qu'il disait lui-même, nous avons besoin d'une église congolaise dans un état congolais. Nous retrouvons dans Maloula, ou dans sa pensée, une espèce de démarche décoloniale, parce que nous devons repartir de nous-mêmes, africains, pour essayer de tracer des voies vers l'avenir. Pour bâtir cet avenir, la femme a un rôle important à jouer.
Autre actualité, lancement des activités du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient au Maniema, un projet qui vise les opérateurs d'accompagnement de proximité dans cette province. Mais avant cela, 51 opérateurs ont participé à un atelier, question de les outiller en vue de mener à bien les activités de PADIR dans tous les lieux de production de la province. Explication, Florence Kizalunga.
Pour les coordonnateurs nationaux des PADRIR, les opérateurs d'accompagnement des proximités constituent la main qui agit sur terrain. Mouteba Kalala.
Le PADRIR, il est dans cet territoire ou cet bassin de production. Alors qu'il n'y a qu'un seul bureau qu'on appelle la coordination qui est à Kindu. Donc voilà pourquoi les OAP constituent une sorte de délégation du pouvoir, de la coordination pour la mise en œuvre des activités dans une approche de proximité.
Pour les participants, cette formation les a permis d'entrer dans le bain du projet PADRIR. Léonie Sokibonasula est l'un des opérateurs d'accompagnement des proximités à Caritas Kasongo.
La formation a consisté premièrement à comprendre les périmètres de PADRIR, les missions que nous allons exécuter en tant qu'OAP et à relever certains défis sur le terrain.
Ces derniers affirment être prêts à accompagner les communautés. Peter Mumedi est de l'ONG Maendeleo Okwetu.
Après cette formation, il serait pour nous de descendre sur le terrain pour aller structurer la communauté en chaîne de valeur et les accompagner à la production agricole.
Signalons que l'objectif des PADRIR dans ce projet est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté au sein de la communauté. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pour sa part, l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement tend la main aux communautés locales à Mbala, Mbembei et Telega dans la périphérie de la ville de Bounia. L'ONG internationale a remis plusieurs ouvrages et infrastructures de base à ces populations le week-end. Il s'agit notamment des bâtiments scolaires, des passerelles et des sources aménagées d'eau potable. Ceci entre dans le cadre du projet OIFA exécuté par l'ONG internationale ADC. Nicolette Kodiango pour les détails.
Au total, 29 ouvrages construits par l'ONG ADCC ont été remis aux communautés locales de Mbala, Bembei et Telega à une dizaine de kilomètres de Bounia. Des entités qui accueillent de nombreux déplacés en provenance du territoire de Ndjougoum, ce qui a réduit les capacités d'accueil de services offerts à la population locale. Face à ces défis, l'ONG ADCC a réalisé plusieurs projets dans le domaine de l'éducation, de l'eau, de la sécurité alimentaire et moyens de subsistance. Elle a ainsi construit 17 salles de classe équipé de 360 pupitres, 4 sources d'eau potable, 2 passerelles pour désenclaver le village de Telega et Bembei, mais aussi faciliter le trafic sur ces routes de dessertes agricoles qui ravitaillent la ville de Bounia en vivres. À cela s'ajoute la construction d'une salle polyvalente et des hangars d'un marché. Ces actions qui contribuent au développement du milieu sont saluées par le bénéficiaire. Cependant, certains défis restent encore à relever dans ces entités. Entre autres, le manque de structures médicales pour la prise en charge de malades. Bounia, Nicolette Kodiango, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Côte d'Ivoire vers une baisse drastique des activités du bureau sous-régional du HCR basé sur place, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui appuie ceux installés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Togo, va devoir baisser ses activités faute de financement. La crise financière est venue soudainement et elle est très importante, justifie Olivier Bir, représentant multi-pays du HCR.
L'invité.
Depuis 3 ans, les registres d'enregistrement des enfants sont inexistants dans la ville et le territoire de Beni, au Nord Kivu. Une situation alarmante qui prive des milliers d'enfants de leur identité légale, avec des conséquences majeures sur leur accès à l'éducation, aux soins et à la protection. Qu'est-ce qui explique cette carence? Quelles solutions sont envisagées? Éléments de réponse avec Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef de bureau de l'état civil à Beni. Il répond aux questions de Martial Papi Mukeba.
Sylvain Lumbulumbu, bonjour.
Cela fait maintenant 3 ans que les registres d'enregistrement des enfants font défaut à Béni. Quelle est la principale cause de cette carence persistante selon vous?
Ah, la principale cause, c'est le ministère des tutelles ne nous fournit pas assez de registres. Il y a retard dans la transmission des registres au niveau du ministère des tutelles.
Quelles sont les conséquences concrètes de cette absence des registres sur la vie des enfants non enregistrés, notamment en matière d'accès à l'école, aux soins ou à la protection juridique?
D'abord, la première conséquence, c'est d'exposer les enfants à la patrie. Et vous savez très bien qu'à partir de l'acte de naissance, on a déjà la présomption de dire que tel ou tel autre est congolais. Et en étant congolais, vous savez très bien, et cela donne certains avantages. D'abord les avantages politiques, mais aussi sociaux. Avantages sociaux par rapport à la succession, cela donne droit à l'enfant d'être parmi les héritiers. Question des nationalités, la gratuité à l'école. Et c'est pour cela que nous avons même suggéré à certains de nos députés. Parce que c'est un avantage donné aux petits Congolais. Et nous avons suggéré à nos députés de proposer une loi pour encadrer, n'est-ce pas, cette gratuité. Je vais dire par là, par exemple, que tout enfant non déclaré ne peut pas bénéficier de la gratuité de l'école.
Aujourd'hui, environ combien d'enfants dans la région de Béni sont privés de cet enregistrement?
Il y a peu, nous avons fait une descente sur terrain parce que je suis point focal. Vu le territoire de Béni, le constat était très malheureux parce que tous les bureaux n'ont pas de registre. Vous comprenez ce que ça peut produire comme conséquence? C'est-à-dire les activités sont à berne. La plus grande activité au niveau des bureaux d'état civil partout, c'est l'enregistrement des enfants. C'est le mouvement de la population qui doit tout contrôler. Parce que nous avons créé un régime social que nous avons appelé régime de procuration. Aujourd'hui, je vous dis, rien qu'à Ville de Béni, je compte plus de 50 000 enfants dans ces régimes-là de procuration. Et le registre lui-même, il a combien de pages? 535 pages avec 4 feuillets. Vous allez trouver que ça nous demande presque 101 registres pour élaguer tous ces arriérés des procurations qui traînent dans nos bureaux ici.
Donc, on peut dire, en des termes plus simples, qu'environ 50 000 enfants ne sont pas registrés.
Ne sont pas registrés et nous avons des procurations ici.
Alors, face à cette situation préoccupante, quelles mesures ont été prises ou sont envisagées par votre bureau pour relancer l'enregistrement des naissances dans la ville et les territoires de Béni?
Vous allez comprendre qu'on ne peut pas rester bras croisés comme ça. Nous sommes des Congolais, nous devons protéger nos enfants, exposés à la patrie, je vous l'ai dit. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre contact avec le PTF maintenant, les partenaires techniques et financiers. Et ce sont ces PTF-là qui nous viennent en aide. Présentement, si nous sommes dans une campagne de rattrapage, c'est tout simplement parce que nous avons été appuyés par l'ID financé par AMAD. Vous comprenez? Et donc, on ne doit pas laisser la situation pourrir comme ça. Nous devons nous mouvoir et faire quelque chose quand même pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans les rattrapages, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il y a des arriérés. Je vous ai parlé de procuration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une maman qui se présente à taille utile dans le délai légal, qui a fait un enfant. Vous savez, c'est 90 jours. La maman se présente avant que le délai légal expire. Mais on ne va pas lui demander de rentrer comme ça. On risque de décourager, de cracher d'ailleurs sur tous les efforts que nous avons fournis pour amener les gens, n'est-ce pas, à considérer que déclarer un enfant, c'est capital, ça a vraiment une importance. Et à une dame comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend une procuration et lorsque nous avons des registres, on enregistre l'enfant à la date où la maman s'était présentée au bureau pour dire que l'enfant se trouve dans le délai légal. Mais en faisant ça, où sont les registres maintenant? Nous n'avons pas de registres.
Un appel ou un message particulier adressé aux autorités compétentes ou aux partenaires techniques et financiers pour appuyer la relance de ces services essentiels?
Nous lançons un cri. Demandons à ce qu'ils essaient de voir la possibilité, n'est-ce pas, de nous donner des fournitures de bureaux, entre autres les registres, pour que les activités ne soient pas à berne, telles que nous sommes en train de passer la période d'aujourd'hui. Et donc nous avons besoin des registres, non seulement à Ville de Béni, mais aussi dans les territoires de Béni. Le besoin est énorme. Et donc nous avons besoin de l'appui et du gouvernement et de PTF.
Sylvain Lumbulumbu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal qui a été long. Actualité oblige. Merci à Pelé Kipela Mondo, à Élisée Tchikota et à Debs Vita. Excellente journée à toutes et à tous.